Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Josine Kazé.
Nous sommes mardi 18 janvier 2022. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bienvenue dans ce journal en français dont voici d'abord la charpente. Un comité dit de sauvetage vient d'annoncer la destitution de Léonard Nyangoma à la tête du parti CNDD-FDD. Léonard Nyangoma, lui, dit que cette décision est nulle et de nul effet. Il qualifie ce comité de détracteur. Nouvelle incursion des militaires burundais sur le sol congolais. Plus de 400 militaires auraient franchi la frontière du côté de la rivière Rusizi ce lundi matin. C'est pour aller combattre les groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Le test de niveau pour les enseignants qui était prévu le 28 janvier de cette année est reporté pour une date ultérieure. La décision a été prise ce mardi par le ministère de l'Éducation en collaboration avec les syndicats et le Conseil national pour le dialogue social. Voilà pour le sommaire de ce journal. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous d'information.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Bienvenue encore une fois dans ce journal. C'est peut-être vers le dédoublement du parti CNDD, Conseil national pour la démocratie. Un comité dit de sauvetage vient d'annoncer le remplacement de Léonard Nyangoma à la tête de ce parti, selon un communiqué de presse lu par le secrétaire exécutif de cette formation politique ce mardi. La décision a été prise pour redresser le CNDD qui était au bord du gouffre. On écoute Jean-Claude Bassavossé, secrétaire exécutif du CNDD.
Vu la constitution de la République du Burundi 17 juin 2018, vu la loi régissant les partis politiques au Burundi, vu les statuts et le règlement d'ordre intérieur du parti CNDD, considérant la fait de ne recevoir de la lettre ouverte du 23 décembre 2021 et invoquant les articles 112 et 114 du statut du CNDD, considérant la situation qui prévaut au sein de la classe dirigeante du parti CNDD, éclairée par la conférence de presse du 18 janvier 2022, décide. Article 1er, la classe dirigeante au sommet est remplacée par le comité de sauvetage jusqu'à nouvel ordre. Article 2, camarade honorable Nyangoma, qui était jusqu'ici président du parti CNDD, devient président d'honneur du parti. Article 3, camarade Gaspard Kobako, porte-parole, est désigné pour assurer la présidence intérimaire du parti jusqu'à l'organisation d'un congrès extraordinaire mettant en place les nouveaux organes en conformité avec la légalité. Article 4, le bureau du comité de sauvetage est chargé de préparer un congrès extraordinaire dans un délai de 3 mois mettant en place les nouveaux organes dirigeant du parti CNDD.
Je suis et je reste président du CNDD, répond de son côté Léonard Nyangoma en exil depuis 2010. Selon ce fondateur du mouvement CNDD qui deviendra un parti politique en 2005, cette décision est nulle et de nul effet. Il qualifie de détracteurs ces gens qui, pour lui, ont la mission de détruire le CNDD. On l'écoute.
Les questions de notre parti, le CNDD, s'analysent dans les instances du parti. Et les décisions sont aussi prises dans les instances du parti. Et la décision prise par la majorité, c'est celle-là qui entre en application. Effectivement, le 27 septembre a eu lieu une réunion extraordinaire du comité exécutif. Cette réunion a analysé, entre autres, comme point, une lettre publiée sur les médias toujours par ce groupuscule, et à l'unanimité, les membres du comité exécutif, aussi le mouvement des femmes et des jeunes affiliés au parti CNDD, ils ont tous condamné contenu de cette lettre. Alors, ils ont demandé à ce que membres de ce groupuscule soient radiés du parti s'ils veulent créer un autre parti. Ils ont le droit, ils peuvent créer un autre parti. Et parmi eux, il y a un certain Kobako qui récidive parce qu'il a tenté de faire un coup d'État en 98, il a échoué au sein du CNDD. Malheureusement, il est récidive, mais qu'il sache que le CNDD est un et indivisible.
Et puis, plus de 400 militaires burundais auraient franchi la rivière Rusizi la nuit de ce dimanche à lundi à destination de l'est de la République démocratique du Congo pour renforcer les autres éléments qui s'y trouvent déjà depuis quelques semaines. Des sources militaires nous disent qu'ils sont partis en tenue civile pour le camouflage. De combats intenses opposeraient les militaires burundais aux groupes rebelles qui se sont retranchés en territoire d'Uvira. Plus de détails avec Valérie Mucho.
Selon nos informations, les militaires choisis pour cette incursion sur le territoire congolais proviennent de trois camps militaires. Le 111e bataillon au camp Gatumba, commandé par le lieutenant-colonel Mbonyeze, le 112e bataillon commandé par le lieutenant-colonel Désiré Niabosé, le 221e bataillon commandé par le lieutenant-colonel Marius Gahomera, en plus d'autres militaires issus du bataillon de la police militaire qui est sous les ordres du lieutenant-colonel Ildefonso Baranyikwa. À cela s'ajoutent les militaires du EMR, l'école des renseignements militaires, dont le siège se trouve à Moussaga, dans les bâtiments de l'ancien 1er bataillon paracommando. Selon toujours nos sources, ces militaires ont été regroupés dans le camp du 111e bataillon de Gatumba sous le commandement du lieutenant-colonel Mbonyeze. Avant leur incursion en République démocratique du Congo, ordre leur a été donné de se défaire de leur treillis militaire et de se camoufler en tenue civile. Selon toujours nos informations, une partie de ces militaires aurait refusé de se défaire de leur treillis. Ils auraient ainsi été arrêtés et conduits au camp de Gatumba. Les treillis des militaires qui se sont rendus au Congo ce dimanche sont pour le moment stockés dans deux endroits, au camp de Gatumba et à la position du 11e bataillon blindé dans la province de Cibitoke, à l'ouest du pays. Les défenseurs des droits de l'homme à l'est du Congo dénoncent cette incursion des militaires burundais au moment où des affrontements entre l'armée burundaise et les rebelles du mouvement Red Tabara et du FNL commandé par Aloïs Nzabamema sont signalés sur place. L'armée burundaise aurait pris ses quartiers à Kabere et Rugeje dans le territoire d'Uvira. Radio Inzamba, nous avons essayé de joindre par téléphone le porte-parole de l'armée burundaise, le colonel Floribert Biyereke, à propos de cette incursion sur les territoires congolais, mais sans succès.
Merci Valérie Mucho et dans quelques poussières de secondes, la suite de cette édition.
Pourquoi faut-il se faire vacciner? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour trois raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, devrait prendre comme exemple la situation de Outana pour punir les politiciens qui s'ingèrent dans des procès politiques en intimidant les magistrats. C'est Maître Vital Nshimilimana, ancien président du syndicat des magistrats Simabou, qui le dit. Il fait ainsi allusion au secrétaire provincial du CNDD-FDD, Sylvain Nzikoruliho, qui pour lui va jusqu'à imposer des magistrats qui doivent siéger au tribunal. On l'écoute.
C'est une situation qui n'apporte rien au régime et qui porte atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et les magistrats devraient, à partir de ce jour, se lever comme un seul homme et défendre l'indépendance vis-à-vis de l'exécutif. Parce que un magistrat, comme un responsable de la juridiction du tribunal de grande instance de l'Outana, est couvert par la loi, il est protégé par la loi. C'est lui qui doit représenter la République où, qui doit être le garant de la justice dans cette province, et il est anormal qu'il soit influencé à un tel niveau, à un tel point, il accepte que la formation du siège soit influencée ou décidée au sein du CNDD-FDD. Aujourd'hui, nous demandons au président de la République, à la personne d'Évariste Ndayishimiye, celui-là qui a versé des larmes de crocodile en septembre 2021, et qui doit donner l'exemple, s'il faut quand même, pour montrer qu'il ne peut pas continuer à accepter que des magistrats soient dictés par des responsables du parti au pouvoir, parce que ceci décrédibilise toutes les institutions de la République, et ceci porte grandement atteinte aux droits et libertés des individus, y compris les personnes vivant au Burundi. C'est au moment où des magistrats pourront se lever, notamment au sein des syndicats des magistrats, pour réclamer leur indépendance, mais aussi pour dénoncer des comportements pareils, que la justice sera rendue au bénéfice du peuple burundais et tout le monde pourra en profiter.
Toujours dans le domaine de la justice, la poursuite des grands auteurs des crimes sexuels et à caractère sexiste commis au Burundi depuis 2015 ne peut se faire à l'interne dans le contexte actuel. C'est à l'international que cela peut être initié, en particulier à la Cour pénale internationale. Cela ressort d'une analyse scientifique faite conjointement par le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi et le collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes de droit international commis au Burundi, CAVIB. Pour Maître Emmanuel Nguengurutse, membre fondateur du CAVIB, les principaux crimes commis au Burundi sont des crimes contre l'humanité. Il s'agit entre autres des crimes de viol, de torture, de persécution et de grossesse forcée. On écoute.
Les points intéressants à retenir, c'est que primo, les crimes sexuels et à caractère sexiste ne revêtent le caractère international que lorsqu'ils sont sous-jacents à au moins l'une des trois catégories des crimes internationaux, à savoir le crime de génocide, le crime contre l'humanité et le crime de guerre. Autrement dit, les crimes sexuels et à caractère sexiste doivent avoir été commis dans le contexte d'au moins l'une des trois catégories des crimes internationaux. Au Burundi, comme l'atteste la commission d'enquête des Nations Unies pour le Burundi, ainsi que de nombreuses organisations opérant tant au niveau national qu'au niveau régional et international, il y a eu commission des crimes contre l'humanité depuis le 26 avril 2016. En conséquence, les crimes sexuels et à caractère sexiste commis dans ce contexte relèvent de la compétence internationale. Secondo, selon les enquêtes menées, les crimes sexuels et à caractère sexiste commis au Burundi sont de quatre types, à savoir les crimes contre l'humanité de viol, 2. Les crimes contre l'humanité de grossesse forcée, 3. Les crimes contre l'humanité de torture, accusation alternative aux crimes de viol, et 4. Le crime contre l'humanité de persécution, accusation également alternative aux crimes de viol. Tertio, les juridictions à saisir comprennent d'une part la Cour pénale internationale, à le retrait du Burundi au statut de la Cour n'attend pas les procédures au sujet des crimes commis pendant que le Burundi en était encore membre et ceux dont la continuité est au-delà de la date du retrait effectif s'est avérée. Et d'autre part, les juridictions nationales dotées de la compétence universelle, c'est-à-dire celles dont leurs pays ont attribué la compétence de poursuivre les auteurs de crimes internationaux, alors même que ces crimes n'ont pas été commis sur leur territoire, ni contre les ressortissants.
Parlons éducation à présent. Après la menace des enseignants d'entamer un mouvement de grève si rien n'est fait, le test de niveau pour les enseignants qui avait été programmé par le ministère de l'Éducation le 28 de ce mois est suspendu. La décision a été prise à l'issue d'une réunion entre les représentants du ministère, des syndicats, des enseignants et du Conseil national pour le dialogue social. La déclaration finale est lue par Parfait Mberabagenzi, membre du Conseil national pour le dialogue social.
Le CNDS, en tant qu'organe de prévention et de gestion des conflits du monde et du travail, s'est saisi de cette question en vue de prévenir l'escalade de ce conflit vers des situations de nature à perturber la paix sociale en milieu du travail. Pour ce faire, les deux parties ont été invitées à s'asseoir ensemble pour engager un dialogue sur le conflit en question. Ainsi, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique accepte de suspendre l'organisation du test pour détecter les forces et les faiblesses de chaque enseignant par matière, en attendant les conclusions des négociations qui seront menées sous la médiation du CNDS. Tenant compte de cet engagement du ministre, les syndicats des enseignants affiliés à la COSESONA acceptent de surseoir à leur intention de déclenchement d'un mouvement de grève générale afin de créer un climat favorable aux négociations. Le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique et les syndicats regroupés au sein de la COSESONA se conviennent de mener, dès la signature de la présente déclaration, des négociations franches et sincères en vue d'aboutir à des solutions aux problèmes posés. Concernant la problématique de la politique salariale évoquée dans le mémorandum de la COSESONA, le CNDS s'engage à mener des contacts le plus rapidement possible avec les partenaires concernés, c'est-à-dire le gouvernement et les syndicats des travailleurs, pour la concrétisation de ce qui est déjà convenu.
Dernier dossier de ce journal, les réfugiés burundais vivant dans le camp d'Ndouta en Tanzanie sont toujours dans la désolation. Les Wasungusungu viennent chaque jour endommager leurs champs de bananiers et de maïs. Le point avec Diane Nkurunziza.
Selon des sources concordantes émanant du camp d'Ndouta, les policiers, en collaboration avec les jeunes chargés de sécurité dits Abasungusungu, ont continué à détruire les champs de bananiers et maïs de la zone 7, même ce lundi. Ces réfugiés sont étonnés de voir que, malgré l'intervention de plusieurs personnes déplorant son comportement, la destruction de leurs champs n'a pas pour autant cessé.
La destruction méchante des bananiers continue. Et d'autres champs, c'est-à-dire la police et les Wasungusungu ensemble. Et voire même les cris d'alarme qui ont été lancés ici et ailleurs, aucune chose n'a été changée jusqu'à l'heure que nous sommes. La destruction méchante continue, maintenant ils arrivent en zone 7.
Ces réfugiés demandent au gouvernement de la République unie de la Tanzanie d'assurer leur sécurité comme ils sont venus à la recherche de l'abri.
Nous demandons aux sociétés internationales, les communautés internationales, d'agir sur cette question parce que nous voyons que le gouvernement tanzanien ne peut jamais écouter le cri d'alarme en provenance d'autres pays ou d'autres communautés ou organisations se trouvant à l'étranger.
Ça fait environ 2 semaines que la police, en compagnie des jeunes chargés de la sécurité dans les champs, a débuté la destruction des champs. La rédaction de la radio Inzamba n'a pas pu joindre le responsable de son camp pour nous donner de plus amples éclaircissements sur ces lamentations des réfugiés du camp d'Ndouta en Tanzanie.
Merci Diane Nkurunziza pour toutes ces précisions et c'est par là que nous bouclons la boucle de ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Au revoir et à la prochaine.